Il est 18h15 à Maradi, c'est l'heure du forum de Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum de Studio Kalangou a pour interrogation principale la sécurité dans la région de Maradi, la gestion des réfugiés et comment faire face aux enlèvements de personnes. La région de Maradi, située dans le centre du Niger, fait depuis quelque temps face à un important flux de réfugiés venus du Nigeria voisin, ainsi qu'à une recrudescence des enlèvements de personnes suivies de demandes de rançon. Ces migrations massives couplées au phénomène d'enlèvement dans la région rendent complexes les mesures sécuritaires à mettre en œuvre. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre l'ampleur et la persistance du phénomène d'insécurité, la situation humanitaire dans la région de Maradi et les dispositions prises pour y faire face. Pour développer ce sujet, nous sommes dans le studio de la radio Gorkoa, notre principale radio partenaire dans la région de Maradi, avec comme invité Sani Sanoussi, secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi. Sani Sanoussi, aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Maradi. Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, bonsoir.
Bonsoir.
Et Abdou Damalam, sociologue. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Sani Sanoussi, comment se présente la situation sécuritaire aujourd'hui dans la région de Maradi?
Voilà, merci beaucoup. Du point de vue sécurité, je dirais qu'elle se porte bien. Bien pourquoi? Parce que comme vous le savez, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui est une situation qui nous est imposée. À l'interne ici, dans la région de Maradi, nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucune question qui oppose les populations de la région de Maradi. Donc, de ce fait, je dis que c'est une région qui se porte très bien, qui n'a pas de difficultés internes à elle entre les habitants de cette région. Mais néanmoins, il faut le dire, parce que c'est aussi une réalité, nous avons un voisin le plus proche de nous, qui est le Nigeria, notamment à travers les États fédérés, n'est-ce pas, du Sokoto, Katsina et Zamfara. Et depuis un moment, ces États faisaient l'objet, n'est-ce pas, des enlèvements. J'ai vu tout à l'heure dans les sujets ou les thématiques qui constituent l'ordre du jour de ce débat, vous avez parlé des enlèvements. Je préfère faire le lien entre sécurité et enlèvement avant même que vous n'en arriviez là, vous, dans vos questions. Au tout début, comme je le disais, c'était des bandits. Des gens qui viennent enlever des animaux, n'est-ce pas, au niveau de nos frontières, surtout au niveau du côté de Katsina et un peu de Zamfara. C'est des bandits, en tout cas, qui viennent quand ils voient des gens avec leur bétail, ils les enlèvent, ils prennent le bétail, ils continuent. Et avec les différents accords que notre région, avec les États fédérés, les trois États, notamment l'état de Katsina, on a un accord qu'on a signé entre les deux régions et qui a consisté à cadrer cette question des transhumances. Après ça, quand ça a réussi, les bandits ont pris une autre forme d'opération, celle de non seulement d'arracher les animaux, mais kidnapper, n'est-ce pas, les propriétaires des animaux, jusqu'à demander une rançon contre libération de ces propriétaires des animaux. Non pas même les animaux, mais les propriétaires des animaux. C'est à cette forme de banditisme que nous associons aujourd'hui dans nos frontières. Donc, je ne dis pas sécurité, mais banditisme. La question de sécurité est une question stratégique qu'on ne saura pas avec moi à débattre ici. Mais quand on va parler de banditisme, qui est aussi une forme, je dirais que c'est une réalité. Et nous sommes à notre niveau en train de prendre des dispositions pour que notre frontière, avec ces États fédérés-là, puisse être une frontière sécurisée, une frontière où il peut faire bon vivre comme d'habitude. En conclusion, par rapport à cette question, je dirais et je réitère encore le fait que notre région se porte très bien. En dépit de ce que j'ai dit, comme banditisme qui sévit au niveau de notre frontière avec Kachina notamment. Vous le savez, notre région, ou l'État du Niger, comme toujours d'ailleurs, a pris des dispositions pouvant en tout cas barrer la route, surtout de notre côté du Niger, notamment de la région de Maradi.
Sani Sanoussi, secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi, avez-vous une estimation du nombre de personnes prises en otage cette année et combien sont encore retenues comme otages?
Oui, je dirais, au tout début, je vous ai dit que c'était des simples enlèvements. Enlève les animaux, ils partent avec par la Suisse. Il y a des kidnappings qui a commencé, en tout cas avec demande de rançon contre libération. Nous n'avons pas connu beaucoup de cas comme ça ici à Maradi. Cependant, il y a quelques-uns qu'on peut dénombrer à 25 par exemple qui ont été enlevés et que bon, les parents ont dû rembourser l'argent que le kidnapper a demandé contre libération de ces personnes, de ses parents. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'estimatif. Ça ne peut pas dépasser 25 sur l'étendue du territoire de la région qui ont été enlevés et par la suite se voient revenir dans leurs familles respectives contre une paye des rançons que vous connaissez déjà.
Salut Sanoussi, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule personne qui est détenue par leurs ravisseurs?
Oui, nous avons quelques cas récents, notamment ici dans la ville de Maradi. Vous savez, ici dans la ville de Maradi, il y a une opération de bois chauffe que certaines personnes se sont données à faire, notamment au niveau de la forêt de Babanrapi. Ici, ils sont autorisés à le faire dans la région de Maradi parce qu'ils détiennent des papiers, n'est-ce pas, qui les autorisent à aller prendre ces voies-là de chauffe et les amener au niveau de la ville. Donc, récemment, nous avons enregistré 8 personnes qui ont été, n'est-ce pas, enlevées par les bandits sous prétexte qu'ils partaient chercher des voies et des voies pas sur l'étendue du territoire de notre pays, mais au niveau du Nigeria parce que c'est l'un des 15 km déjà de frontière. Des choses comme ça, c'est des choses qui, sans même cette forme d'insécurité, sans même ce banditisme-là, c'est une situation normalement à laquelle on ne devrait pas assister parce que lorsque vous êtes habitant d'un pays, vous êtes autorisé à faire une activité dans ce pays. Quand vous franchissez la frontière, vous savez ce qui peut venir contre vous. Parce que vous n'êtes pas autorisé à aller jusque là-bas.
Donc, Sani Sanoussi, peut-on penser à une complicité?
Complicité, je dirais non. En tout cas, il n'y a pas de complicité. De mon point de vue, d'après les rapports que nous avons, il n'y a aucune complicité dans cette affaire. Je le disais tout à l'heure que c'est tout à fait normal, même quand tu franchis, n'est-ce pas, une barrière, une frontière, que tu te passes obstacle, que tu te vois, en tout cas, menacé jusqu'à même vie, c'est tout à fait normal. Donc c'est pourquoi au tout début j'ai répisé l'idée d'insécurité même.
Sani Sanoussi, est-ce que les populations de la région de Maradi sont suffisamment sensibilisées par rapport à cette forme de banditisme le long de la frontière avec le Nigeria?
C'est là-dessus nous sommes. Rien que tout à l'heure, avant que je ne vienne ici, nous avons discuté avec le gouverneur au nom duquel je suis là. Ce que nous devons continuer à faire aujourd'hui, c'est la sensibilisation. C'est vrai, mais ça ne serait pas du trop. Il faut qu'on pointe du doigt, n'est-ce pas, cette affaire-là. Il faut qu'on aille dans les quartiers, il faut qu'on arrive dans les arrondissements de la ville, partout dans la région. En tout cas, pour demander aux gens, pour les sensibiliser, en tout cas, de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui au niveau de notre frontière avec le Nigeria. En tout cas, la sensibilisation est en train d'avoir lieu, elle est en train de se passer comme il le faut. Nous sommes en train de voir l'ensemble de nos entités, notamment territoriales, par allusion ici aux différentes mairies, en collaboration avec les chefs traditionnels, avec la société civile, pour en tout cas attirer l'attention de nos populations à ne pas à tout moment vouloir franchir l'apprentissage. Parce que notre problème, c'est au niveau de l'apprentissage. Et je crois que ça, c'est tout à fait même naturel. Et partout ailleurs dans le monde, quand on dit frontière, on sait ce qui attend au niveau de la frontière. Donc, en tout cas, sensibilisation, on est en train de la faire. Et je suis certain que dans un moment à un autre, nous arriverons à canaliser nos populations à comprendre qu'il y a nécessité de ne pas aller franchir la frontière.
Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, vous êtes le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de la région de Maradi. Au jour d'aujourd'hui, on estime à combien le nombre de réfugiés dans la région de Maradi?
Je vous remercie aussi de l'opportunité que vous m'offrez pour informer l'opinion publique sur cette situation que vous venez d'écrire, à savoir l'avènement des réfugiés dans notre région. Et effectivement, il y a un mois de cela, nous avions fait un recensement, un enregistrement des réfugiés. Le nombre qu'on a trouvé tourne autour, avec exactitude, de 16 871 réfugiés, soit 3 200 familles.
Comment s'organise l'assistance humanitaire dans les localités touchées par ce banditisme, comme aime le dire le secrétaire général adjoint du gouvernement de la région de Maradi?
C'est vrai, le secrétaire général adjoint l'a dit. Ce n'est pas seulement qu'il aime le dire, c'est cette situation-là. C'est vraiment du banditisme qui est là, effectivement. Donc, l'avènement des réfugiés est justement dû à ce grand banditisme que nous observons le long de la frontière, dans les zones de Zamfara et même Sokoto. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'assistance humanitaire. Effectivement, vous savez, quand il y a un avènement des réfugiés, quand ils sont d'abord reconnus comme tels, parce qu'il va falloir d'abord essayer de savoir est-ce que réellement ce sont des réfugiés ou des retournés. Donc, quand on arrive à faire la part des choses, effectivement, que ce sont des réfugiés, le Niger a signé la convention de Genève de 49 à 51, il l'a signé. Donc, c'est son devoir d'abord, avant de parler d'assistance, de les protéger, comme l'a si bien dit le SG et le SGA de la région. Il faut d'abord les protéger et ensuite les assister. Donc, à cela, nous avons des partenaires qui viennent nous accompagner et pour qu'il y ait cette assistance alimentaire et autres. Le partenaire, je peux citer, nous avons et le ACR, nous avons des ONG comme l'ONG ICAD, et l'ONG APBE, l'ONG ADCO, l'ONG SION, qui viennent pour nous aider, qui nous apportent des soutiens. Et aussi, il ne faudrait pas perdre de vue que l'État du Niger a fait un premier pas en octroyant 100 tonnes de vivres pour ces réfugiés-là. Il y a aussi le pays voisin qui est venu, plus précisément l'État de Sokoto, qui a fait aussi un don de 300 tonnes de vivres. Il faut aussi ajouter que le HCR aussi a fait un don en NFI. Nous avons aussi une ONG NRC qui a fait aussi des dons à NFI. L'ONG SIOD, NFI. NFI, vous allez me demander ce que c'est. Ce sont des biens non alimentaires. À part les biens alimentaires, ceux qui viennent dans notre pays, les réfugiés, vous savez, ils viennent sans rien. Parce que dès que ça commence, dès qu'on cherche à attenter à votre vie, vous n'avez pas le temps de prendre vos bagages. Vous prenez la fuite seulement et vous rejoignez le pays le plus proche. Il s'est fait que c'est la région de Maradi qui a été la région la plus proche. Donc les NFI sont composés des couvertures, des seaux, des ustensiles, des kits de cuisine, des pagnes, des habits pour les enfants, du savon pour se laver, des seaux, etc. Ce sont ça les NFI. Donc comme vous voyez, il y a un ensemble de mécanismes qui a été mis en œuvre, non seulement pour les protéger, pour les porter protection, parce qu'il faut d'abord les protéger, voir les cas vulnérables, les sensibiliser, leur prendre ça en charge, et ensuite les assister. Donc, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est de cette façon-là que cela se passe.
Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi, quelles sont les dispositions prises pour surveiller les frontières?
Merci encore de me reposer la question relative à la sécurité. Je l'ai dit que c'est une question stratégique pour nous. Nous assistons au banditisme. L'État n'a jamais cédé, en tout cas, à ce que nous sachions à ce genre de comportement, pas même au niveau de l'apprentissage, partout ailleurs. Des dispositions importantes, comme à l'accoutumée, sont prises, notamment les patrouilles, vous les connaissez. Aujourd'hui, la région des Maradis, en dehors du dispositif traditionnel de sécurité que tout le monde connaît, à ce qu'on appelle la compagnie mobile de contrôle des frontières, qui est une compagnie spécifique, n'est-ce pas, à intervenir au niveau des frontières. Ça, c'est entre autres dispositions que l'État du Niger a dû prendre au niveau de la région des Maradis, particulièrement au niveau de la frontière. Donc, je crois qu'il est clair, tout le monde le sait, l'État n'a jamais pensé des ports de trop pour cette question des frontières, avant même l'avènement de ces banditismes. Nous avons été toujours, en tout cas, au niveau de cette frontière-là pour la sécuriser, parce qu'il faut le faire pour tous les jours.
Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, la région du Maradi a-t-elle aujourd'hui les moyens nécessaires pour faire face au flux des réfugiés?
En réalité, ne parlez pas justement de seulement la région du Maradi. Effectivement, c'est l'État du Niger. Quand il y a un réfugié dans une telle ou telle autre région, c'est l'État du Niger qui prend les choses en main. Et aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, quand j'expliquais l'assistance humanitaire, je vous ai dit que le Niger a signé des conventions internationales, dont celle de 49 et 51 à Genève. Donc, nous avons un partenaire. Il y a un instrument qui a été créé, et à cette époque, une institution, le HCR. Dès qu'il y a un avènement des réfugiés et qu'ils sont reconnus comme tels, cette institution vient en aide à l'État du Niger pour faire de l'assistance. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, peut-être c'est au SG que vous devez poser cette question pour la région. C'est le HCR qui vient en appui à l'État du Niger et avec l'aide de certaines ONG. Donc, l'État du Niger est en train de faire tout son possible. Vous avez vu les autorités de la 7e République, ils ont déjà donné, avec à leur tête le président de la République, Alhaji Issou Mamadou, 100 tonnes de vivres ont été déjà octroyées. Il y a très longtemps de cela que ça a été fait. C'est-à-dire que l'État a déjà pris les choses en main et on leur a donné le territoire. L'État du Niger les a acceptés dans son territoire. L'État du Niger a facilité la coexistence pacifique avec les autochtones. L'État du Niger a mis à leur disposition la sécurité pour qu'ils ne soient plus, si vous voulez, pourchassés, parce qu'ils sont à côté de la frontière. Et c'est très possible, comme l'a expliqué encore une fois de plus le SIG, parfois ils viennent pour des vols de bétail ou même des enlèvements dans notre pays. Ils peuvent poursuivre pour les tuer, parce qu'ils leur ont demandé de revenir pour payer des rançons. Je parle des réfugiés, mais ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils ont vu beaucoup de leurs qui ont été massacrés, tués, même leur maison. Ils n'ont rien laissé au hasard, même les chiens qui étaient là avec eux, ils ont été massacrés. Ils ne peuvent plus revenir. Donc aujourd'hui, l'État du Niger a pris les choses en main.
Abdou Damalam, vous êtes sociologue. Comment la société civile, ici au niveau de la région de Maradi, peut-elle contribuer à lutter contre cette forme de banditisme dans la région, surtout le long de la frontière avec son voisin immédiat, le Nigeria?
Je remercie d'abord le studio Kalangou de m'avoir invité à ces grands thèmes d'échange au niveau de la région de Maradi. Sur le thème la situation d'insécurité ou bien de sécurité dans la région de Maradi, le problème des réfugiés et les enlèvements des personnes. Et vous m'avez demandé la contribution des acteurs de la société civile et de tous les acteurs tout court dans la région de Maradi. Je pense, sous le contrôle des autorités, la population de Maradi dans son ensemble s'est levée sous une forme unique pour combattre la situation d'insécurité qui nous est imposée le long de la frontière du département de Guidarumji et de Madarumfa. Et cette situation au niveau des acteurs sociaux avait nécessité une large campagne de sensibilisation, surtout en dénonçant le mouvement de ces bandits ou de ces voleurs qui veulent semer du désordre ou bien du trouble au niveau de la frontière du Niger avec notre grand voisin et plus particulièrement la frontière de ces deux départements précités. Les acteurs de la société civile, je pense, étaient avant-gardistes de l'alerte principale auprès des autorités pour qu'on puisse agir très vite. Parce que ces paisibles citoyens, nos parents, les cultivateurs, ont fait d'abord recours à ces acteurs pour les informer de la situation des menaces et des vols du bétail dans ces différents départements. Et avec l'intervention du mécanisme mis en place par les autorités, on a pu quand même gérer certaines parties, mais jusqu'à preuve du contraire, cette psychose reste au sein de la population. Elle reste, mais les acteurs de la société civile, tout comme les personnes de bonne foi et de bonne volonté dans la région de Maradi, continuent encore à dénoncer et à donner des pistes là où se retrouvent ou sont cachés ces bandits ou bien ces malfrats. Je pense qu'avec les autorités régionales, les acteurs de la société civile avaient par occasion ou par moment voulu entreprendre des séances de sensibilisation au grand public en dehors des débats organisés au niveau des différentes radios de la place. Nous avons voulu avoir une mission pour aller dans les villages environnants, sensibiliser les villageois afin qu'ils puissent dénoncer ces malfrats ou ces bandits ou bien ces personnes qui veulent semer du trouble dans la région de Maradi.
Abdoudamalam, comment expliquer la persistance de ce phénomène de banditisme dans cette région habituellement paisible?
Ce phénomène qui est un fait social s'explique d'abord par ce qu'on connaît, le manque d'emploi chez les jeunes, et ce manque d'emploi a entraîné ces jeunes du pays voisin, notre grand voisin du Nigeria, à envahir la région de Maradi par le canal des différents départements précités afin de voler des bétails pour pouvoir les vendre et satisfaire leurs petits besoins. Ça, je pense, c'est le début de ce mouvement et qu'au tout début, on a pensé que c'est cette migration des nomades qui, du reste, ça ne peut pas en manquer dans toutes les régions où on dit cohabitation entre
des éleveurs
et des cultivateurs, on peut avoir ce vol de bétail. Ce n'est qu'après, avec l'avènement des élevements et des demandes des rançons, qu'on a compris que cette situation devient de plus en plus grandiose et de plus en plus préoccupante. Il faudrait qu'on agisse beaucoup. Et vous savez, notre grand voisin, le Nigeria, est un pays où tout peut passer. Et ces grands bandits ont eu à leur actif des armes sophistiquées et qui leur ont permis d'attaquer les paisibles cultivateurs qui n'ont que la force traditionnelle, qui n'ont que la force d'union du groupe, et que devant les armes, beaucoup ont cédé. Et ça a amené vraiment cette psychose au niveau de la population. Et je pense que pour quand même que cet état de fait soit remis peut-être à l'actif de la société, il faudrait que l'État, les partenaires et même la population elle-même contribuent, comme je l'ai dit, à dénoncer et à déloger les foyers de ces personnes malveillantes et de ces personnes qui ont un esprit mal intentionné à nuire aux paisibles citoyens. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces départements constituent une zone stratégique pour la population de Maradi en matière de culture. Parce qu'aujourd'hui...
Même si, des échanges.
Oui, même du point de vue échange économique. Et moi, je parlerai sur l'impact que cela peut avoir sur l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, si le cultivateur, si le paysan n'arrive pas à aller labourer convenablement comme il se doit son champ, ce qui est sûr, quelque part, il y aura un déficit. Et ce déficit, c'est pas seulement au niveau de la région de Maradi, c'est sur le plan national qu'on le sentira.
Mmh. Mamane Sanoussi, secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi. Au Niger, Maradi est considéré comme étant la capitale économique du Niger. Quel est l'impact de ce banditisme ou bien de cette insécurité sur les activités commerciales entre le Niger et le Nigeria?
Merci Mokhtar. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, revenir un peu sur l'aspect réfugié que vous demandez le directeur en charge de l'état civil.
Allez-y.
De répondre justement par rapport à la question que vous l'avez posée sur la prise en charge, n'est-ce pas, de ces réfugiés. Je voudrais vous dire qu'il y a deux niveaux de responsabilité quand il y a question de réfugiés. Notre responsabilité intrinsèque, nous, en tant qu'État, c'est d'abord la sécurité, n'est-ce pas, de ces personnes-là, l'espace humanitaire notamment. C'est ces questions-là qui sont intrinsèques à nous. Maintenant, il y a des questions, n'est-ce pas, à responsabilité collective, notamment l'assistance. Quand il s'agit d'un réfugié, pour le venir en appui, en bible ou en non-bible, c'est une question qui concerne l'ensemble des pays ou l'ensemble même des agences du système des Nations Unies avec lesquelles nous avons travaillé, sous la tutelle desquelles, bien entendu, un certain nombre des ONG internationales déjà avaient réagi pour assister, n'est-ce pas, ces personnes-là. Donc c'est pour un peu aller dans le même sens qu'à ce que dit le directeur régional de l'État civil. Maintenant, quant à votre question sur l'impact, on les touche des doigts. Il n'y a rien, on sait que quand il y a banditisme au niveau des frontières, il n'y a pas libre circulation des biens et des services et des personnes. Aujourd'hui, ces situations, en tout cas, nous parviennent un pas arrière. Il faut les reconnaître parce que Maradi est une région d'une activité intense en commerce. Et ce commerce-là est majoritairement exercé entre cette partie-là qui est aujourd'hui prise en otage par les bandits. Du coup, ça réduit notre élan, ça réduit nos capacités, ça réduit nos libertés d'aller acheter et vendre au niveau de ces états fédérés-là qui constituent de façon extérieure le poumon de notre économie. Parce que sans compter ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, s'il faut parler du commerce international, nous n'avons pas un pays avec lequel notre région, n'est-ce pas, a des rapports commerciaux comme, n'est-ce pas, les États fédérés du Nigeria.
Mamane Sanoussi, comment faire pour garantir la liberté d'aller et revenir entre le Niger et son voisin immédiat, le Nigeria?
La liberté d'aller et venir, je l'ai dit, elle est là, elle est assurée, mais c'est la terreur dans les mentalités des gens. Sinon, le dispositif, je vous dis, a toujours existé au niveau de nos frontières. Seulement, vous ne pouvez pas empêcher à un commerçant, quand il apprend qu'il y a des bandits, même s'il sait qu'il y a un dispositif qui est là, de sécurité, mis en place pour sa propre sécurité, c'est tout à fait singulier pour lui de penser qu'il est dérangé d'aller ou de ne pas aller. Donc, pour dire que les dispositions sont là, elles sont prises pour tous les jours, mais néanmoins, il y a toujours un impact négatif sur notre économie au niveau de la région. Mais des dispositions restent toujours prises, sont toujours là, des dispositions, c'est clair, les gens le savent. En vérité, il ne doit pas y avoir d'inquiétude de la part des populations parce que c'est des choses palpables, c'est des choses qu'ils voient. Tu ne peux pas aller faire 10 km à partir de Maradi quand tu vas aussi sans rencontrer un véhicule, n'est-ce pas, d'une force de dépenses et de sécurité. Donc, de ce fait, nous pensons que des dispositions sont là. Il ne doit pas y avoir normalement inquiétude.
Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, comment la région de Maradi peut-elle continuer d'accueillir les réfugiés et en même temps filtrer les entrées sur le territoire de Maradi et des personnes en provenance du Nigeria?
Oui, merci. Effectivement, vous avez raison. Dès qu'il y a des problèmes au Nigeria, on assiste toujours à un afflux massif, il faut le dire, des réfugiés. Et comment faire pour filtrer? Vous avez raison, ça c'est le rôle régalien de l'État. Comme l'a si bien dit le SGA de la région, tout au long de nos frontières, nous avons la sécurité, nous avons les FDS. C'est à leur niveau que le filtrage doit se faire. C'est-à-dire, il faut procéder par des fouilles, vérifier les identités, et les fouilles parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des infiltrations. On l'a vu ailleurs, il y a parfois des infiltrations, que des bandits viennent chez nous pour commettre beaucoup de choses malveillantes. Donc c'est comme ça que le filtre se passe. C'est au niveau de nos frontières, les FDS, ils procèdent à des fouilles, à des contrôles d'identité. Il ne faudrait pas que des personnes rentrent avec des armes. Maintenant, au niveau des identités, au niveau de l'identité, il faudrait voir si ce ne sont pas des personnes recherchées parce que la police travaille avec Interpol, etc. C'est comme ça que le filtre doit se faire et c'est comme ça la quote-part de l'État assurer la protection, assurer la sécurité de nos frontières. Il faut le dire aujourd'hui, s'il y a eu cet avènement du banditisme au Nigeria et qui est venu un peu chez nous au Niger, c'est parce que, je m'excuse de le dire, je ne dois peut-être pas le dire ici, notre grand voisin ne joue pas son rôle. Hein. Sur une distance de 30 km, il n'y a pas d'État au Nigeria. Je m'excuse encore du terme, il n'y a pas d'État parce qu'il n'y a pas les forces de sécurité. Les nôtres sécurisent nos frontières, elles ne peuvent pas aller au-delà hein, pour qu'il n'y ait pas des incidents diplomatiques. Et à un moment, la seule fois qu'elle est y allée, parce qu'il y avait eu, je crois... Ça a été décidé ainsi. La seule fois qu'elle est entrée, il y a eu des problèmes. Nos FDS ont été prises en sandwich et vous connaissez la suite. Donc aujourd'hui, notre grand voisin doit d'abord sécuriser ses frontières. Imaginez un peu, de la frontière, c'est une distance de 30 km, vous n'avez pas de FDS. Donc c'est comme on le dit dans un jargon, c'est le no man's land. Chacun vient, il peut installer son territoire. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, de notre côté, du côté de la partie nigérienne à la frontière, nos FDS sont là nuit et jour pour sécuriser nos frontières.
Est-ce que les entrées et les sorties sont filtrées comme ça se doit?
Oui, elles sont filtrées. Le SGA, je crois qu'il est très bien placé pour le dire, elles sont très bien filtrées. Et au niveau du Niger, il n'y a aucun problème. Partout où vous partez, vous allez voir la sécurité, vous allez voir la patrouille. Mais maintenant, quand votre voisin ne fait pas exactement ce que vous faites, c'est tout à fait normal. Quand là-bas, il y a des exactions qui sont commises, la population nigérienne, elle fuit vers le Niger. C'est pour ça que nous allons assister à cet afflux massif de déplacés qui sont aujourd'hui des réfugiés. Parce qu'un réfugié, il faut le définir. Quand quelqu'un fuit son pays suite à des exactions qui sont commises sur lui, et il est d'office. On peut le considérer comme étant réfugié. Donc voilà, c'est comme ça un peu que ça se passe. Vraiment, je vous confirme que du côté de la partie nigérienne, c'est bien filtré.
Abdou Damalam, comment faire pour rectifier le tir?
Pour corriger cette situation que nous vivons dans la région de Maradi, il faudrait que des dispositions ou des dispositifs soient mis en place à plusieurs niveaux. D'abord, il faudrait fortifier les traités internationaux. Et au niveau de la région de Maradi, au-delà des traités internationaux, nous avons des traités entre les régions. Par exemple, au niveau de la région de Maradi, je sais que quelque part, le gouvernorat de Maradi a des traités avec la région de Zamfara et la région de Sokoto. Maintenant, ensemble, on doit unir nos forces pour combattre ce banditisme et sous toutes ses formes. Maintenant, au plan régional, il faudrait quand même doter nos forces de défense et de sécurité des moyens adéquats, malgré la chance que nous avons de cette compagnie de contrôle ou de sécurisation des frontières. Il faudrait qu'à l'interne, que nos forces de défense et de sécurité soient dotées des moyens nécessaires leur permettant de sécuriser toute notre frontière avec ces zones en tension. Parce que il ne suffit pas de faire pousser l'ennemi dans son propre camp et se retirer. Et c'est vraiment maintenir cette surveillance 24 heures sur 24. Et au-delà, toujours au plan régional, il faudrait que toute la population de Maradi collabore avec ses forces de défense et de sécurité pour vaincre ce banditisme. Je pense que aussi, il faudrait permettre à ces paisibles citoyens de redécouvrir ou d'avoir leur souffle ou leur sourire avec les personnes enlevées. Il faut faire tout pour que ces personnes enlevées soient quand même retournées dans leurs familles respectives. Cela peut permettre maintenant ensemble à rectifier les tirs. Parce que s'il y a de l'enlèvement, quelque part, il y a menace. Il y a d'autres qui ne fermeront pas l'œil. Parce que quand vous prenez un jeune enfant de 2 ans, 3 ans, ou un père de famille enlevé, je pense quelque part, toute cette famille ne serait pas en paix. Et que les textes de la République ont prévu que l'État doit garantir la liberté d'aller et de revenir. Et c'est à cette fin que je demande les autorités et tous les acteurs qui peuvent contribuer pour qu'il y ait une paix durable, pour qu'il y ait une certaine accalmie dans ces zones de tension, doivent amener toutes leurs contributions. Ce tir, il est là, il faut le rectifier. Et je pense que ces voies de sortie, ces pistes de sortie sont d'abord les voies. Peut-être avec les voisins, tout comme ici chez nous, il faudrait qu'on maintienne la situation des jeunes. Parce que là aussi, on peut avoir le poids démographique peut entraîner cette situation. Quelque part, après investigation, on s'est rendu compte que...
Vous voulez dire qu'il faut occuper les jeunes.
Il faut occuper les jeunes parce que c'est des proies faciles. C'est des proies faciles. Quand les jeunes n'ont rien, ils peuvent être des guides. Et quand déjà à l'interne de la population, il y a ceux qui sont là à la merci des mercenaires de ces bandits, ça devient encore une bombe qu'il faut désamorcer. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, pour cela, même les jeunes, ces jeunes villageois, deux fois avec leur situation d'exode, de retour, ils viennent avec d'autres idées. Et ces idées-là, en cas d'échec, ça peut entraîner ce banditisme. Et une fois qu'ils sont en contact avec leurs amis voisins du Nigeria, ça devient encore une bombe chez nous. Donc tous ces facteurs-là doivent être revus. Et on devait quand même faire des propositions qui vont mettre fin à cette situation. Et pour cela, la préoccupation des jeunes à travers une nouvelle politique sociale d'emploi des jeunes peut toutefois vaincre ce phénomène.
Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Maradi, avez-vous une politique claire et réelle pour la jeunesse de Maradi?
Oui, la politique claire et réelle, c'est une politique qui est nationale. Vous le savez bien, le président de la République, c'est des engagements qu'il a pris et qu'il est en train d'honorer. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir, n'est-ce pas, des résultats, n'est-ce pas, d'embauchement des jeunes que nous avons enregistrés, non pas au niveau du pays des passants en général, mais au niveau de la région. C'est vrai, Damala l'a dit, c'est à peine normal. Vous savez, la question de la jeunesse, c'est une question qui revient à tout moment. Parce que d'un jour à un autre, il y a toujours jeunesse qui augmente. Donc c'est une question qu'il faut toujours avoir, n'est-ce pas, de quoi répondre et de quoi faire passe pour éviter que ça se dégénère en quelque chose de désavantage au lieu d'avantage. La politique pour la jeunesse, c'est bien celle que je l'ai dit, et celle du président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de jeunes en chômage à Maradi. Le cas qu'il a évoqué tout à l'heure, justement, il a évoqué en parallèle au Nigeria. C'est surtout aujourd'hui la jeunesse du Nigeria qui a choisi ce métier, dont on craint qu'elle ne le transmette, n'est-ce pas, à la nôtre. Les dispositions, c'est celle-là de recrutement, celle de faire en sorte que les jeunes soient occupés, n'est-ce pas, à travers leur formation, par des métiers qu'ils méritent en tout cas en avoir pour arrêter à ce qui se passe de l'autre côté, n'est-ce pas, se transmet par là. Donc là-dessus, nous n'avons pas aucune inquiétude. Je ne sais pas pour revenir sur ce qu'il a dit, tout est vrai. Seulement, je tiens à réitérer que au niveau de nos forces de dépenses et de sécurité, nous n'avons aucune inquiétude.
Sandy Sanoussi, voilà. Pour finir, quelles sont concrètement vos attentes?
Moi, mes attentes pour le moment, les plus ardentes, c'est quoi? C'est qu'il faut que la population collabore. Il faut que la population collabore totalement. Chaque fois qu'il y a un mouvement suspect, il faut le dire, il faut dénoncer. Il faut dénoncer à qui de droit, n'est-ce pas, pour pouvoir à tout moment réprimer tout contrevenant. Voilà ce que j'ai dit, enfin, à l'ensemble de la population de la région de Maradi.
Moussa Salé Bouzou Mokhtar, quels sont vos conseils, vos propositions ou recommandations pour un retour rapide de la quiétude de la région de Maradi?
Je pense que le SGA a répondu, mais bon, effectivement, vous avez raison. C'est toujours le problème de la jeunesse qui y revient. Il faudrait que la jeunesse soit occupée. Il ne faudrait plus qu'elle soit oisive. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Damala, la population doit coopérer, parce qu'il ne s'agit pas seulement à la police ou à l'ensemble des FDS de mener des enquêtes pour ramener la quiétude sociale. Non, c'est à toute la population. Et en l'occurrence, nous savons que ici, notre population, elle est très jeune. Elle doit collaborer avec les FDS. Ça a été dit tout à l'heure, tout au long de ces débats, que Maradi est quand même la région économique du Niger. Si cela ne cesse, cela va avoir un impact négatif sur l'économie et nous ne le souhaitons pas. Donc pour cela, la jeunesse doit collaborer et elle doit aller vers la création de l'emploi. Il ne suffit pas seulement d'attendre tout de l'État, non. Il faut aller vers la création d'emplois. Donc il faut éviter l'oisiveté. Donc c'est mon dernier mot.
Voilà, rapidement, Dame Alam, rapidement, oui, le temps qui nous a permis.
Mokhtar, je vais dire, moi, mes attentes sont d'abord à l'endroit des autorités et qu'ils fassent tout pour que la population dorme en paix, vive en paix, pour que nos paisibles cultivateurs retournent au champ du matin jusqu'au soir. Il faudrait leur donner cette occasion afin de booster l'économie de la région. Et au niveau de la population, j'aimerais que la population, comme l'a si bien dit les autres participants, à la collaboration et à la vigilance. Et que aussi, il faudrait que toutes les lois qui seront prises à l'endroit de la sécurité ou de la sécurisation de la région de Maradi, qu'il y ait un suivi, qu'elle soit appliquée et sans pour autant parti pris. Parce que nous avions vu à un certain moment avec la situation des jeunes qui prenaient les chichas, il y avait la mesure a été prise, mais il manque d'accompagnement. Il faut interdire à tous les niveaux. Je pense bien que j'avais apprécié cette décision prise au niveau du gouvernorat de Maradi. C'était Agadez y avait le suivi. Mais on ne peut pas interdire et encore laisser le vendeur vendre du chicha. Il faudrait qu'il ait du suivi et c'est une occasion parce que le gouverneur est là. Et j'ai dit que vraiment cette loi-là, c'est pour encore vaincre cette insécurité. Ces jeunes-là qui sont dehors constituent une menace. Il faut les occuper. Et voilà. Par votre voix aussi, je remercie le studio Kalangou de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion de me prononcer sur la situation sécuritaire dans la région de Maradi.
Le Niger partage avec le Nigeria une frontière commune de près de 1500 km avec de part et d'autre les populations parlant les mêmes langues, le Hausa, le Kanuri et le Peul notamment. En outre, les armées du Niger et du Nigeria sont engagées au sein d'une coalition avec d'autres forces notamment tchadiennes et camerounaise dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram qui sévit depuis 2009 dans la zone. Et nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Sani Sanoussi, secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi, Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Maradi, et Abdou Damalam, sociologue. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Seyni Issaka. Au revoir.